Radio Alpa.
Tic tac, tic tac, tic tac.
LB à la technique, Nicolas à l'animation. Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. C'est avec un immense plaisir, comme d'habitude, que je vous retrouve en direct sur Radio Alpa 107.3 FM pour une 11e émission du débat. Ce soir, nous débattrons du sujet suivant, jeunesse et économie, une génération sacrifiée. Afin d'évoquer cette question, j'ai décidé d'inviter Samir Tine, directeur et fondateur de l'association L'Esprit de Barbara. Bonsoir Monsieur Tine.
Bonsoir.
Et mademoiselle ou madame, pardon, Élodie Zogo, présidente de l'AFGEM, Association Fédérative des Jeunes et des Étudiants et Étudiantes du Mans. Bonsoir mademoiselle Zogo, ou madame, pardon.
Les deux.
Bon, ok. La jeunesse était annoncée comme une priorité d'Emmanuel Macron, mais on ne voit pas quel dessein ambitieux lui est proposé pour la jeunesse. L'attente est pourtant forte. L'école aggrave les inégalités, le marché de l'emploi se ferme, le logement est inaccessible, de nombreux jeunes diplômés imaginent leur avenir au-delà des frontières. Mais la jeunesse apparaît comme un sujet politiquement peu rentable. Faiblement politisé, les jeunes électeurs et électrices s'abstiennent et ne constituent pas une clientèle électorale fiable. Il est vrai que la jeunesse constitue une catégorie particulièrement hétérogène où peu se reconnaissent. Au sein des nouvelles classes d'âge aussi, les inégalités s'accroissent en fonction de la localisation géographique, de l'origine familiale, du sexe, du niveau de diplôme, des perspectives d'avenir. Qui se reconnaît vraiment dans cette jeunesse floue, d'ailleurs déconsidérée, voire stigmatisée? On ne peut pourtant s'empêcher d'y revenir, car la jeunesse n'est pas seulement un âge de la vie, plus ou moins idéalisé, elle se présente aussi comme une catégorie de l'action publique, avec un ministère dédié, des services publics, des dispositifs particuliers calés, en fonction de seuils d'âge très étalés. Le grand partage entre minorité et majorité s'estompe au profit d'une multiplicité d'étapes administratives, symboliques, obligations scolaires, accès au revenu minimum. Par défaut, on laisse les familles se débrouiller avec les difficultés de leurs jeunes, ce qui accentue encore les inégalités. C'est précisément l'importance de cette solidarité familiale qui explique finalement l'inaction actuelle. Car on craint de toucher au contrat intergénérationnel qui s'installe discrètement. Souligner les difficultés actuelles de l'entrée dans la vie active incite, en effet, à comparer les sommes mobilisées par tranche d'âge. Or, les choix politiques des dernières décennies ont privilégié le statu quo de notre pacte social, notamment la protection des retraites, qui absorbe au passage 14% de la richesse nationale, un record en Europe, au point que le niveau de vie moyen des retraités est maintenant équivalent à celui des actifs. De ce fait, la France sous-investit-elle dans la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, au moment où il faudrait donner la priorité à notre avenir en soutenant l'éducation, le logement, l'environnement. Monsieur Tine, mademoiselle Zogo, pardon, madame Zogo, première question que j'aimerais vous poser, les jeunes sacrifiés économiques de la crise sanitaire, qui veut répondre, madame? Monsieur Tine, allez-y.
Oui, c'est un constat. On l'a bien vu pendant la crise sanitaire, qu'il a fallu attendre le mois de novembre 2020 pour qu'on ait un gouvernement qui réalise qu'il y ait des étudiants qui meurent de faim. Je crois, si je me rappelle les chiffres que me donnait Maël Durdren du Secours Populaire.
Que d'ailleurs nous saluons, il n'a pas pu être présent ce soir, on lui passe un big up pour l'émission et prends bien soin de toi.
Et donc il me disait que au Secours Populaire, c'est plus de 50% de jeunes universitaires qui vont collecter au Secours Populaire. C'est aussi, parmi les jeunes, c'est plus 55% de l'aide alimentaire au Secours Populaire, où on retrouve des enfants. Et un sur deux, oui, c'est des enfants. Oui, on a complètement oublié notre jeunesse pendant ce confinement, pendant ces confinements. Il y a eu un souci, non seulement psycho, ça vous en parlerez bien mieux que moi. Il y a eu un problème de logement, des problèmes d'accès à l'emploi, des problèmes d'accès aux stages, des problèmes d'accès aux formations, et toute une kyrielle d'anti-mesures, j'ai envie de dire, qui ont eu lieu, qui ont vraiment, vraiment marginalisé notre jeunesse.
Mademoiselle Gohé, une intervention ou un complément
Un complément, oui, effectivement, je rejoins tout ce qu'il a dit. Donc la jeunesse s'est complètement retrouvée oubliée avec les confinements. Je me souviens, il y avait des personnes qui sont restées, qui étaient loin de leur famille, enfermées dans des 9 mètres carrés, sans possibilité de vie sociale avec qui que ce soit, parce qu'ils se retrouvaient tout seuls. Et du coup, donc pas de vie sociale, rien du tout. Pas de vie sociale, rien pour nous aider à côté. On n'a pas vraiment le moral. La psychologie ne suit pas, donc il n'y a pas de suivi psychologie. Du coup, je suis désolée, je suis encore un peu essoufflée. mais oui, effectivement. Et donc il y a, par exemple, je pense à l'épicerie solidaire, à Le Mans Université, qui recueille beaucoup de personnes aussi, beaucoup d'étudiants qui y vont, parce que ils sont précaires, ils n'ont presque rien en soi. Donc oui, effectivement, la crise sanitaire n'aura pas aidé les étudiants depuis les deux dernières années.
Vous l'avez vécu, cette crise sanitaire? Vous expliquiez que les étudiants qui étaient en crous dans les logements, 9 mètres carrés, conditions très compliquées, vous l'avez vécu vous-même?
Alors moi, je ne l'ai pas vécu personnellement. J'ai eu de la chance parce que pendant les confinements, j'étais à Laval, chez mes parents, donc j'avais un peu plus d'espace. Donc je pouvais sortir, je pouvais prendre l'air, mais ce n'est pas le cas de milliers d'étudiants. Donc des milliers d'étudiants, que ce soit ici au Mans ou dans d'autres universités partout en France, qui se sont retrouvés complètement isolés, loin de leur famille, sans possibilité de les voir, avec des cours à distance, avec une vie qui n'était dictée que par les cours, les devoirs, manger, dormir. Et au final, ils ont vécu ça comme un peu quelque chose. Enfin, ils ont vécu ça tout seuls. Ils ont traversé toutes ces épreuves-là ces deux dernières années. Ils les ont traversées tout seuls. Donc je comprends que aujourd'hui, à l'heure actuelle des choses, disons qu'ils ne sont plus aussi motivés qu'ils pouvaient l'être avant, ce que je comprends tout à fait. Donc, ils se concentrent sur leurs études, mais à côté, ils ont... Enfin, je veux pas dire...
Il n'y a pas de vie, quoi.
Voilà, il n'y a pas de vie.
On y reviendra peut-être. Mais je vais me faire l'avocat du diable, mais me semble-t-il, quand même, vous parliez de précarité alimentaire et vous parliez de l'épicerie solidaire. Le gouvernement, me semble-t-il, à l'époque, avait pris une mesure qui était les repas à 1 euro au CROUS. Qu'en est-il de cette mesure? Elle existe toujours, assurément.
C'est ce que je vous disais. Le temps que le gouvernement se réveille, c'était le mois de novembre.
Oui,
si vous rappelez bien cette annonce-là,
passé,
c'était le mois de novembre. Nous, les bénévoles de la salle Barbara, devenue association aujourd'hui, on a vécu, nous, ce que vivaient les étudiants. Il y avait plus de 300 étudiants coincés sur le campus du Mans, qui n'avaient plus accès à la nourriture. Il faut imaginer une chose très simple. Si vous êtes parent, que vous avez votre enfant qui est dans une autre université, vous l'aidez, comme tout à chacun, vous envoyez ce que vous pouvez, etc. À ce moment-là de la crise, beaucoup de parents se sont retrouvés en chômage partiel. Ils ont aidé autant qu'ils ont pu, il y a un moment, et les parents se retrouvent en fragilité, et les étudiants, du coup. Donc, plus rien. Le CROUS s'est certes réveillé aussi à un moment, mais très, très, très tard. On s'est retrouvés, nous, les bénévoles de la salle Barbara, sous la direction d'Yves Calipe, à ce moment-là, à se dire, c'est pas possible. Dès le mois de mars, nous avons réagi. On s'est dit, il faut aller vers les étudiants, vers le campus. Et avec l'association Eve, on est parti distribuer des repas tous les jours sur le campus étudiant. Et ça a duré très longtemps. Jusqu'au mois de novembre, on a continué. À chaque crise,
donc,
à chaque confinement.
Donc, sur le premier confinement, en mars 2019, jusqu'à novembre 2019.
Mars 2020.
2020, pardon, excusez-moi. De mars jusqu'à novembre, il n'y a eu rien de fait.
Rien de fait. Il y a des tentatives de discussion, il y a de temps en temps des gens qui se réveillaient. Moi, je me rappelle du restaurant universitaire que gère le CROUS, qui disait « Bah oui, ils pourront manger, vous inquiétez pas, du lundi au vendredi. » Les étudiants ne mangent pas le samedi et le dimanche, hein, c'est connu, tout le monde jeûne pendant le week-end, parce que ça fait mieux bosser les partiels à l'arrivée. Et c'était là le souci. Donc nous autres, on a continué à travailler là-dessus. Et on a attendu, on a appelé à l'aide pour leur dire « Attention, nous avons une jeunesse qui décline, une jeunesse qui manque d'accès à la nourriture. » Et comment peut-on préparer notre futur, donc avec notre jeunesse, si on lui permet pas de s'alimenter correctement? Et c'est un phénomène qu'on voit depuis pas mal d'années. Je me rappelle une époque à Paris.
Oui, c'était en fait le Covid, ça a été peut-être le phénomène qui a amplifié ça, mais on voyait déjà des signaux faibles sur ça.
Complètement. Je me rappelle d'un restaurant d'une épicerie solidaire à la Sorbonne à Paris où on voyait
la file, oui, effectivement, oui, tout à fait. Mais c'était comme ça au Mans aussi?
Eh ben au Mans, peut-être qu'on voyait pas, parce qu'on est une ville qui est assez solidaire et protégée. Mais dès lors où on a eu cette grave crise sanitaire, là, les aides ont commencé à diminuer. Il faut imaginer aussi que tous ceux qui pouvaient être bénévoles ce mois de mars, avril et mai 2020 ne pouvaient pas être très âgés. j'ai la chance, je me classe pile poil l'intersection générationnelle, mais vous imaginez que tous les lieux de distribution alimentaire, d'accompagnement social, quand c'est des bénévoles, ils sont en général très âgés, ils ont plus de 60. Pardon pour mes amis, mais ils ont plus de 60. À ce moment-là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et heureusement, ce qu'on a pu avoir dans la salle Barbara à l'époque de mars 2020, c'est qu'on a eu des étudiants qui ont été solidaires des autres
des
étudiants.
Étudiantes
sans
des
eux,
étudiants.
On n'aurait jamais pu aider et les universitaires et puis les autres.
On les en remercie. Et vous, l'AFGEM, qu'est-ce que vous avez essayé de faire pour faire bouger les choses? Enfin, concrètement, vous êtes mobilisés, notamment sur les épiceries solidaires où les étudiants qui étaient membres de l'AFGEM ont aussi participé à ces actions?
Alors, étant donné que pendant le confinement, l'AFGEM, on était un peu...
Comme tout le monde impacté, donc on n'a rien pu faire.
Mais actuellement, il y a l'épicerie solidaire qui fait partie de notre réseau, et donc on encourage vivement les étudiants à aller vers l'épicerie solidaire, bien entendu. Et on a fait des actions, notamment lors des élections CROUS. On a mis en place un programme pour pouvoir justement parler lors des conseils d'administration du CROUS pour faire en sorte que les repas 1 euro soient plus accessibles au plus grand nombre. Parce que c'est vrai que pendant le confinement, Je parle pas pour les autres campus, mais en tout cas, moi, j'étais à Laval. Les repas 1 euro étaient accessibles à tous les étudiants, qu'ils soient boursiers ou non. Je sais que j'en ai bénéficié. Mais maintenant, ils ont réduit à nouveau. Ils sont à nouveau accessibles que aux étudiants boursiers.
Ah, d'accord.
Sauf que c'est pas vraiment... un étudiant qui n'est pas boursier, ça veut pas dire qu'il n'a pas... qu'il n'est pas précaire.
Plus voilà. De sous non plus.
Voilà, exactement.
Mais il faut nourrir les corps, mais au niveau de l'âme des étudiants... Est-ce qu'après ces confinements successifs, dans quelle état psychologique sont vos comparses et vos camarades de l'université?
Alors, honnêtement, comment on le sent, nous, dans le bureau de l'AFGEM, mais surtout dans le réseau, c'est que on a, je vais dire le mot entre guillemets, c'est, on a une démotivation, on va dire, des étudiants. Ils ne se sentent plus vraiment investis par la vie extra-universitaire. C'est-à-dire qu'on propose des activités, par exemple, on propose des débats, des endroits où on peut se retrouver à la BU, par exemple. Ils ne viennent pas. Je ne les blâme pas. Loin de moi l'idée de les blâmer. Je les comprends tout à fait pour avoir vécu le confinement. Peut-être pas aussi durement que la plupart des étudiants, mais pour l'avoir vécu aussi. Mais voilà, ils ne sont plus trop investis. Ils viennent en cours, ils rentrent chez eux. Et en fait, ce qu'ils aiment maintenant, ce qu'ils veulent, c'est sortir, faire la fête et tout ça. Sauf que l'AFGEM ne peut pas proposer que ça, malheureusement. Mais oui, on sent un peu, ils sont un peu en retrait, en quelque sorte.
Ce qui est dommage, ce qui fait le sel de la vie universitaire, c'est de pouvoir apprendre des choses en dehors de ses cours.
Oui.
Monsieur Tin, un complément sur les propos, sur l'état psychologique, vous avez le même ressenti que Madame Zogo?
Évidemment, ça l'était déjà compliqué pour ceux de notre génération de se dire qu'on n'avait plus accès à la culture, qu'on n'avait plus accès au cinéma, qu'on n'avait plus accès au bar, qu'on n'avait plus accès à un concert. Alors j'imagine avoir entre 18 et 24 ans, être privé de tout ça. Vous rappelez Nicolas, on a été dans les mêmes universités dans l'Est de la France.
Tout à fait. On salue Laure Girard d'ailleurs de la Strasbourg
absolument.
Connection d'ailleurs. Salut Laure.
Si on avait été privé de tout ça, est-ce qu'on aurait pu étudier? C'est impossible. La jeunesse se construit parce qu'elle fait partie, elle se construit en sortant, en découvrant, en confrontant ses idées, que ce soit dans un bar, que ce soit dans une réunion comme vous l'organisiez. Là, il n'y avait plus tout ça. Moi, je le vois dans les jeunes qui viennent me voir, ils sont désabusés, inquiets. Et aussi, vous parliez en propos préliminaire du climat. Tous ces jeunes ont vu non seulement leur vie être mise entre parenthèses et un climat en train de se détruire. Eux lisent les rapports du GIEC, ne lisent pas certains candidats aujourd'hui.
Certains impétrants, des impétrants.
Ils sont au courant. Et donc, je comprends, moi, que cette jeunesse soit désabusée. On parlait de ma génération, de génération désenchantée. La génération qui arrive ici, c'est une génération clairement sacrifiée. Et ça m'inquiète.
Sacrifiée ou dépressive? Est-ce qu'on n'a pas une génération qui fait un burn-out avant d'avoir commencé à travailler? Vous avez l'impression que c'est pas un burn-out total?
Honnêtement.
Et on terminera sur cette question.
Probablement, oui. Il doit y avoir un peu de ça aussi, un burn-out, un ras-le-bol de tout ça. En fait, la plupart du temps, quand je parle avec certains de mes camarades, j'en ai un peu marre des examens, je suis un peu fatiguée. J'ai besoin de vacances parce que, aussi, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas eu droit à un vrai repos depuis un moment maintenant. Donc, il y a un peu de ça aussi.
Moi, je sais pas si elle est.
Allez, monsieur Tine, allez-y, je vous en prie.
Je sais pas si elle est déprimée. Je vais prendre un propos de Durkheim qui créait le concept d'anomie. Je pense qu'elle se reconnaît
l'anomie sociale,
pas.
Hein, voilà. Tout à fait.
Elle se reconnaît pas dans cette société-là parce que cette société-là ne la reconnaît pas. Et ça, on le sent. On le sent très bien.
C'est une très jolie formule pour conclure cette première partie du débat. On n'a pas essayé de plomber l'ambiance, mais c'est un constat. Hein. Donc, merci de vos témoignages, mademoiselle. Enfin, madame Zogo, pardon, et monsieur Tine.
Je voulais dire les deux.
C'est bon. Donc après ce point très joyeux, on va parler d'un truc encore plus sympa. Pourquoi les jeunes galèrent sur le marché du travail ? Monsieur Tine, vous avez quand même une petite expérience de la question. Et pourquoi, à votre avis, ils galèrent ? Qu'est-ce qui marche pas ? Alors je me rappelle, on avait eu une conversation, enfin, un débat même avec Monsieur Calip, et il nous disait manque de formation. Est-ce que c'est le même constat que vous faites ?
Mais évidemment. Non seulement j'ai une expérience en tant qu'ancien galérien, mais aussi comme ancien conseiller Pôle emploi et accompagnant sociopro. Il manque de formation, la formation théorique, ils l'ont, ils y ont accès. Mais quand on veut pouvoir accéder au marché de l'emploi, il nous faut la formation pratique.
L'expérience.
Ouais. L'expérience. Bien souvent, les patrons, ils recherchent le mouton à cinq pattes, il faut que vous soyez jeune, que vous soyez qualifié, et qu'en plus vous ayez de l'expérience.
On peut pas être jeune et expérimenté, ou alors on commence à faire le travail à des 8 ans, voilà, à ce moment-là, on est bien.
Si vous avez remarqué, tous les 15 ans, on vit ce débat-là. Hein.
Oui, c'est vrai.
Il y a pas très longtemps, c'était le CIP, le CPE, le CNE.
Les réformes Balladur, les réformes Villepin, tout à fait.
On les enchaîne les unes derrière les autres pour finalement aboutir à rien du tout. Moi, j'ai souvent un regard sur ce que font les Allemands. Quand vous entrez à l'université, on vous dit que c'est pas compliqué. D'ici la licence, selon la section que tu as choisie, il faut que tu fasses tant et tant de stages. Si on pouvait coupler notre université réellement avec avec les entreprises, avec les écoles, je prends un exemple tout simple, la formation de sociologie. On peut dire que c'est une voie de garage qui sert à rien, sauf que si vous poussez loin...
Ce que vous avez fait, monsieur Tine.
J'ai fait ça, j'ai fait Sciences Po aussi, au passage... Mais si vous poussez loin, vous pouvez vous retrouver être enseignant, socio-éducateur, etc., etc. Il faudrait permettre à tous ces étudiants-là d'avoir accès au monde de l'entreprise, aux matières sociales, de rentrer dans une école, de rentrer dans un pôle emploi, de rentrer au département dans les services d'accompagnement, etc., pour permettre à ces jeunes d'avoir et la formation théorique et l'expérience pratique.
Madame Zogo, vous êtes d'accord avec Monsieur Tine, dire il faut que les entreprises se rapprochent des universités, qu'on se base sur les besoins locaux ou de former. Vous êtes d'accord sur cette ligne
oui,
à l'université?
Oui, bien sûr, je suis d'accord parce que de toute façon, quand un étudiant termine son master et qu'il va chercher un travail, on va lui dire qu'il n'a pas assez d'expérience.
Hormis les stages payés 200 balles par mois. Enfin non, Hollande avait mis un truc, je crois que c'est 300 euros maintenant au-dessus de 2 mois.
Au bout de 3 mois.
Au bout de 3 mois, c'est ça.
Oui, donc avant ça, c'est pas payé. Donc oui, il y a de ça, proposer plus d'alternance, je sais pas, c'est une idée d'alternance, sauf que là encore, c'est en cours pour les entreprises. Enfin, je ne me connais pas en entreprise, mais oui, je rejoins tout à fait les propos, les entreprises peuvent se rapprocher des étudiants.
Et sur, on a parlé des formations, mais vous à l'université, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes formé pour aller au travail ? Enfin, est-ce que vous avez des cours annexes qui vous permettent d'anticiper comment on travaille et tout ça ? Est-ce que vous avez ce genre de formation à l'université ?
Alors,
je ne sais pas la branche dans laquelle vous êtes et ça n'en regarde personne, mais
non, je fais du droit, mais mais non, enfin. Alors, honnêtement, non, on a plus de théorie qu'autre chose.
Alors justement, j'ai vu que là, il y avait une interview de je ne sais qui de la fac de droit cette semaine, qui disait, je crois que c'est hier dans le Maine Libre, qui a expliqué que justement là, on va ouvrir des nouvelles formations qui vont s'appuyer sur les besoins locaux. Il expliquait que ça vient des entrepreneurs, on a des besoins. Oui, donc voilà. Finalement, ils essayent de répondre quand même un peu à la demande, notamment à la fac de droit en tout cas.
Oui, voilà, en tout cas, il va y avoir de nouveaux masters. Bientôt, qui vont ouvrir. Et le master dans lequel je suis, l'année prochaine, on passe en alternance. Donc oui, effectivement, ils font des choses pour les étudiants. Donc oui, on va passer en alternance. Comme ça, ça va permettre déjà d'avoir une expérience sur le terrain. Parce que quand vous apprenez la théorie, c'est une chose. Mais quand vous arrivez dans le monde de l'entreprise, c'est une autre chose. Où on vous dit qu'en fait... c'est pas à peu près ça. Enfin, les choses se passent différemment.
Je peux confirmer, parce que pour avoir fait du droit comme vous, travailler dans des cabinets qu'on n'avait pas été formés, c'est pas très simple.
C'est un problème de temporalité, parce que vous allez faire de l'alternance au master, mais si c'est à partir de la troisième année ou de la quatrième année, on s'y prend déjà trop tard, à mon sens.
Oui,
à l'époque, on parlait de Doug pour les deux premières années de droit. Il faudrait que l'étudiant ait déjà accès au monde de l'entreprise, pas ce fameux stage qu'on fait en troisième ou en
seconde. Oui, stage découverte.
Voilà, stage découverte, etc. Mais il faudrait pouvoir permettre à l'étudiant de voir in situ à quoi va correspondre le métier pour lequel il se forme.
Mais je sais qu'il y a des facultés, notamment Laval, qui proposent des UEO, des unités, des enseignements.
Des enseignements d'ouverture.
Voilà, optionnels, d'ouverture, voilà, et pour leur permettre de stage. Donc ils vont en stage, ils vont apprendre, faire un stage d'observation auprès d'une entreprise. Donc je sais qu'il y a des étudiants qui l'ont fait, qui ont fait ces UEO là, mais c'est pas tout le monde. Et encore une fois, je vais revenir sur le confinement. Les étudiants ont cherché des stages, mais malheureusement pendant le confinement, ils ont pas pu parce que leur demande de stage était refusée. Ils voulaient plus de personnel. Enfin, il y a plus, vu que le travail se passait à la maison, ils avaient plus besoin de stagiaires.
Mais on leur dira qu'ils n'avaient pas assez d'expérience. Par contre, on parle de la jeunesse, entre guillemets, qui sont à l'université, mais tout le monde ne va pas à l'université. Et vous qui avez travaillé peut-être avec des jeunes périurbains, des jeunes qui sont à la campagne, pareil, l'accès à l'emploi, il est compliqué. Il y a un problème de mobilité, non? Ou c'est autre chose?
Alors,
qui bloque?
Ça fait partie des fameux freins périphériques, qu'on dit.
Je connais pas l'expression, merci pour les
Freins. Expressions. Les freins à l'emploi, votre état de santé, votre mobilité, etc., votre zone géographique, vous habitez au Sablon, vous avez peut-être moins de capacité à séduire l'employeur que si vous habitez, je sais pas moi, au Maillet, par exemple. Oui, il y a ce souci-là. Le souci, il est vraiment en amont, hein. Sans parler des universitaires, justement, on va prendre les autres populations, celles qui sont censées faire du professionnel assez rapidement.
Ou professionnel ou technologique.
Ou technologique. C'est que très rapidement, on ne leur permet pas d'avoir toujours accès à l'entreprise. Ça me fait bizarre, moi, de vous parler d'entreprise constamment, mais c'est la réalité. C'est un jeune qui ne peut pas découvrir l'entreprise, qui ne peut pas se confronter au métier. Et les entreprises elles-mêmes, qui ne viennent pas à la rencontre des futurs employés qu'elles auront, on a là une sorte de gap, de fossé qui se crée entre l'entreprise, le jeune et la formation. Tous ces cours théoriques, j'en reçois tous les jours, moi, des jeunes qui me disent « aide-moi à trouver un stage, aide-moi à trouver un stage ». Et j'en écris des courriers pour les accompagner. Mais non, il y a toujours ce refus-là. C'est toujours cette histoire du mouton à cinq pattes. Si on veut travailler pour notre jeunesse, il va bien falloir qu'à un moment ou un autre, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Emploi, le ministère des Solidarités se décident enfin à travailler de concert pour qu'on puisse enfin permettre à nos jeunes d'avoir accès, comme tous, aux chances d'accéder au marché de l'emploi.
Alors vous avez parlé du frein à l'emploi, notamment la mobilité, vous en avez un peu évoqué, mais la question des réseaux aussi, ça fonctionne énormément. Enfin, c'est ce que vous dites, même vous, à votre niveau, quand vous intervenez, vous n'arrivez pas à débloquer des situations.
Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut absolument qu'il y ait, que tous travaillent main dans la main, qu'on permette. Le réseau commence à partir du moment où on vous rencontre.
Ouais.
Vous venez de me voir aujourd'hui, madame, vous êtes dorénavant dans mon réseau, je suis dans le vôtre. Et c'est comme ça qu'on avance. Si on ne fait pas rencontrer les jeunes... des adultes, des professionnels qui vont les attendre après pour les former, et ben le réseau ne se construit pas.
Et alors j'ai une idée, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais est-ce qu'on ne devrait pas finalement obliger les entreprises à accepter des alternants en échange de monétaire, parce que faut pas se leurrer, hein. Si l'apprentissage a explosé ces dernières années, depuis 2019, on entend le gouvernement et la région avec Madame Morancet se gosser qu'on a augmenté le nombre d'alternants, c'est aussi parce qu'on a mis les moyens, 8000 euros par alternant, en tout cas en voie BTS, je le vois bien en tant que prof qui fait l'orientation de mes terminales, 8000 euros par alternant en BTS MCO, dans les supermarchés, enfin, tout le monde en a profité. Et pourquoi on n'imposerait pas ça à l'université? Mais de dire, on rentre à l'université, les entreprises doivent prendre dans les filières.
Pas qu'à l'université, partout.
Ou dans tous les...
Partout, moi je valide totalement.
Est-ce que ça ne serait pas un pacte qui serait possible?
C'est même nécessaire. On nous annonce là, avec la période de troubles qu'on est en train de vivre, qu'on va traverser des moments très difficiles. Donc oui, il est nécessaire. Toute entreprise cotise, de toute façon.
Oui, par la taxe.
Donc plutôt que de leur faire payer ou leur donner... On va leur dire, on va retirer cette fameuse taxe que vous donnez, mais prenez des jeunes. Prenez des jeunes réellement en formation, en stage.
Et on pourrait imaginer une forme de tutorat avec les anciens qui peuvent plutôt être... on sait qu'avec l'âge, vu qu'on va travailler jusqu'à 65 ans, peut-être plus selon les impétrantes et les impétrants. Mais vous pensez quoi de ce genre de proposition? Est-ce que vous, l'AFGEM, vous réfléchissez à ça? Vous avez des propositions... Enfin, on y viendra pour les propositions plus tard. Mais est-ce que vous réfléchissez à ce genre de petits dispositifs, même localement?
Oui, alors avec l'AFGEM actuellement, on est en train justement avec Axel Pitrou, il est à l'université du Mans. On parlait de la rémunération des alternants. il y avait un souci de rémunération des alternants. Les moins de 25 ans touchent moins que les plus de 25 ans, alors que normalement, ils ont à peu près, on va pas dire, ils ont les mêmes dépenses. Ils ont le loyer, en sachant que quand on est alternant, bah, parfois on est dans une ville et on a le travail, pardon, l'alternance dans une autre ville. Et donc c'est compliqué si vous gagnez donc, moins.
Il n'y a pas d'accompagnement qui est fait. Enfin.
Voilà. Donc il y a un truc comme ça. On propose ça. On essaye de proposer ça à la faculté pour que le revenu soit à la hauteur de la vie des étudiants qui sont avec nous. Qu'ils aient moins de 25 ans ou plus de 25 ans, ils rencontrent des difficultés, notamment de logement ou tout ça. Donc l'alternance, oui, mais le revenu qui vient derrière avec aussi pour accompagner la vie des étudiants.
Merci Madame Zogo, c'est une formidable transition avant la pause musicale, car nous parlerons justement après le morceau de la question le revenu universel, fausse bonne solution, point d'interrogation. On va se faire une petite pause, alors c'est un morceau très spécial pour moi, car c'est un morceau de Nesbill, chaque jour suffit sa peine, et demain Nesbill sort son nouvel album après 10 ans d'absence, donc roi sans couronne, nous t'attendons demain. Bonne écoute à tout le monde.
Papa, tape maman, mon cartable, ma tristesse, mon lit superposé, mes petits frères, ma jeunesse. On s'accroche au RER, la vie défile à toute vitesse. Courir, grandir, je me sens libre dans l'ivresse. Les sous, les soucis, au petit déj, j'en mange par centaines. Par la porte, les huissiers, impossible de fuir les problèmes. Aujourd'hui, j'en rigole, à chaque jour suffit sa peine. Mariage, enterrement, des roses, bouquets, chrysanthèmes. La flemme de se réveiller, travailler, sécher les cours. Mon destin correctionnel, tu seul sais ce que j'encours un jour prochain. Y'a plus de suspense dans mon parcours, enfant des dunes. Je peux pas stopper le compte à rebours. À chaque jour suffit sa peine. 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 Sa mère peint en silence, un homme qui se noie. La traversée du miroir, nos sourires. J'étais petit, j'avais peur dans le noir. Nuit blanche, dans ce couloir, je marche interminable. Et ce boulevard, j'écris de la main gauche. Dégueulasse, c'est mon buvard. Et dit tout d'aille pour écrire l'histoire. Une défaite, un exploit. À chaque jour suffit sa peine. Demain, je trouve un emploi. Tomber, se relever, partir, tout le monde cherche sa voie. Un regard, l'amour rentre dans ta vie sans le savoir. Ce monde, un grand mensonge, on cache les apparences. Un calvaire, du caviar, ça commence par une romance. Triompher, recréder, pas tant de souffler que ça recommence. À chaque jour suffit sa peine, on sera tous rois avec la patience. À chaque jour suffit sa peine. 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 Dans ce monde cruel, pas même nos souffrances. À chaque jour suffit sa peine. Tu vas tomber, te relever, jamais reculer. L'essentiel c'est que t'avances. À chaque jour suffit sa peine. Grosse dédicace, tout passe. Seuls les murs restent en place. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa haine. On trouve pas le bonheur dans l'oseille. À chaque jour suffit sa peine. Moi je respire à peine. Les keufs et les sirènes m'endorment. Sûrement à Fleury ou à Fresnes, le daron fait l'éden. Et moi je traîne seul dehors. N, oh oh oh. À chaque jour suffit sa peine. N, oh oh oh. À chaque jour suffit sa peine.
Dans 107.3 FM Le Mans,
Radio Alpa,
Radio Alpa,
l'alternative.
À chaque jour suffit sa peine, voilà. Donc nous reprenons, comme nous avions évoqué tout à l'heure, le troisième sujet, le revenu universel. Fausse bonne solution pour la jeunesse, Madame Zogo?
Alors honnêtement, sur le revenu universel...
Ou le revenu étudiant, ce que vous voulez, vous mettez le nom que vous voulez.
J'ai pas d'avis sur ça, je suis un peu mitigée, mais bon...
dites-nous pourquoi, c'est justement le but de votre venue.
En vrai, tant qu'on lutte contre les inégalités, moi je suis partante. Donc éviter que certains étudiants se retrouvent dans des situations... Éviter que certains étudiants se retrouvent dans des situations complètement, on va dire, précaires par rapport à d'autres. Oui, je suis, dans ce cas-là, je suis pour le revenu universel. Mais,
vous y voyez des biais. On reviendra sur ça. Monsieur Tine, le revenu universel, fausse bonne solution?
C'est une très bonne solution. C'est tout ce que vous expliquiez tout à l'heure sur la problématique du jeune qui est alternant et qu'il faut qu'il ait les moyens équilibrés selon qu'il ait plus de 25 ans, moins de 25 ans. Si on veut permettre à une jeunesse d'avancer, de se former tout en étant sereine, il faut évidemment qu'on permette à ces jeunes d'avoir des revenus qui leur assurent le coucher, le manger, l'accès aux loisirs,
etc. La base de la pyramide de Maslow, les besoins primaires.
Il faut absolument permettre, il est anormal d'avoir des jeunes qui font des contrats précaires chez McDo, chez, je sais pas moi, chez n'importe quelle enseigne, chez Carrefour City, qui se retrouvent en CDI, puis après ils sont obligés de démissionner pour pouvoir continuer à avancer. Non, il faut que nos jeunes aient un revenu qui leur permette d'avancer. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, il y a des pays, il y a une ville même qui a tenté l'expérience. Lyon,
Tempéré en Finlande. Ah, chez Béliard, ils ont monté ça.
À Lyon, ils ont un revenu minimum qui a permis à des gamins qui avaient décroché totalement, qui parfois se retrouvaient à la rue, de pouvoir avoir les moyens de se reconstruire. Je lisais l'exemple dans le Lyon Mag d'une jeune femme qui disait, moi j'ai eu tout perdu, je me suis disputé avec mes parents, je me suis retrouvé à la rue. J'ai ce revenu social d'insertion, une sorte de revenu minimum d'existence. Ça lui a permis de retrouver un appartement, de commencer à passer un CAP, de se former et de retrouver un travail.
C'est intéressant, à Lyon, ils l'ont fixé à combien ce revenu? Parce que c'est toujours la question, pour le revenu universel, je vois peu de gens qui sont contre.
Il n'est pas au seuil de pauvreté, il est à 470 euros, mais entre 0 et 470 euros, commençons.
Et c'est financé sur des fonds municipaux, pour le coup, c'est pas l'État qui prend en charge. Vous aviez l'air d'avoir quelques biais quand même sur le revenu, sur un revenu étudiant. Vous dites c'est bien pour lutter contre... Mais vous préféreriez des politiques sectorielles de lutte contre les inégalités, précarité alimentaire, précarité économique, précarité culturelle, plutôt qu'un revenu universel?
Honnêtement, un revenu universel, je vais pas dire que je suis contre.
C'était une question.
Mais oui, un revenu universel, oui, mais d'autres choses à côté qui permettent aux étudiants de s'en sortir.
Alors quoi?
Comme vous dites.
Qu'est-ce que vous considéreriez comme élémentaire pour vivre sereinement et faire ses études?
L'accès au logement, déjà, pour commencer. C'est pas évident pour tous les étudiants d'avoir un accès au logement. Je sais pas.
Un accès au logement CROUS, vous voulez dire, non?
Déjà.
Ou même logement privé.
Logement, n'importe, parce que déjà rien que pour avoir un logement CROUS, c'est pas évident, donc c'est des critères sociaux, ou alors il n'y a pas assez de place, et ensuite les privés, en général ils demandent des garanties, des parents, quelque chose comme ça, qui suit derrière, sauf que c'est pas toujours le cas, et si vous passez par le public, les demandes sont nombreuses, ce qui fait que l'étudiant forcément n'a pas d'accès au logement. Donc oui, avoir un accès au logement, par exemple pour un étudiant qui part dans une ville qui est loin de ses parents, qui n'a pas d'accès au CROUS et dont les parents ont un seuil qui ne lui permet pas d'avoir les bourses, mais les parents ne peuvent pas
Mais d'où l'intérêt de ce revenu minimum d'existence.
Oui, ce revenu...
C'est qui permettrait justement aux jeunes d'avoir accès au logement et de pouvoir étudier, qui change de vie ou pas.
Avec 871 euros, excusez-moi monsieur Tine, mais enfin même si on le fixe, ce qui était plutôt prévu, si on regarde les gens qui ont proposé ça politiquement, en 2017, je crois que Mélenchon propose ça en 2022, alors je sais pas combien il fixe son seuil de revenu étudiant, mais ça permet pas de garantir un logement.
Enfin, on parlait
alors qu'il y a des dispositifs. Est-ce que les jeunes, entre guillemets, ont accès au... Parce qu'il y a des dispositifs qui existent d'accompagnement. Est-ce qu'ils savent tout ça? Est-ce qu'ils ont accès? Parce que là aussi, on parlait justement du guichet unique, de toutes ces choses-là. Macron va essayer de mettre ça en place. Enfin, est-ce que vous avez accès à toutes les aides qui existent?
Alors moi je connais certaines, moi je sais que mon logement, j'ai dû avoir accès à Visal parce que mes parents peuvent pas porter être garant pour moi. Donc j'ai dû avoir accès à Visal et à l'action au logement, mais je ne suis pas sûre que la plupart des étudiants sachent qu'il y a ces aides là pour qu'ils puissent avoir.
Est-ce qu'il faudrait pas qu'on propose un système au-delà d'un revenu universel, mais au moins qui permettrait déjà d'avoir accès à toutes ces aides automatiquement, en fait, un peu comme ce que veut faire Macron pour le coup sur le versement des prestations sociales, un guichet unique, t'arrives le jour de ton inscription à l'université, te dit voilà, on connaît tes revenus parce que pour les bourses vous les donnez déjà. Et ça serait faisable pour vous, monsieur Tine ou madame Zogo?
On peut soit venir expliquer qu'il y a 36 000 aides et vous perdez une énergie folle à courir après tel et tel guichet, tel et tel bureau, ou se décider, moi je reviens à ce revenu minimum universel, où on fixerait pas une somme à 871 euros, où on décide que voilà, étudier c'est un boulot. Clairement un boulot.
Complètement.
Alors on pourrait estimer qu'il faut le mettre au moins au seuil de pauvreté, donc c'est 980 et quelques euros, je vais pas jouer sur
870, je crois que c'est ce que vous disiez
mais en tout cas il faut absolument leur permettre d'avoir accès à ça, qu'on ne perde pas de temps, et puis en échange, puisque c'est ce que vous disiez, il y a peut-être un billet là-dedans, si je vous donne un SMIC ou 1000 euros pour pouvoir étudier, etc., eh ben il va falloir aller faire des stages, aller rencontrer, sortir, développer, etc., participer.
Oui, alors, on donne des droits, mais vous êtes aussi sur la philosophie des devoirs?
Bien sûr.
D'accord.
Des devoirs universitaires.
Ah, d'accord. Ah oui, obligations de présence, obligations. D'accord.
Voilà. Si le biais, parce que je l'ai entendu, ce biais-là, dire, vous filez 1000 euros.
Ah, c'est ça. Tous les jeunes vont être des feignants, ils vont rester à jouer à la PlayStation et manger des kebabs.
Oui, comme avec la bourse.
Enfin, ou autre chose maintenant.
On utilise la bourse et puis on va dans les bars et puis finalement on a rien du tout et on vient à la fin du mois en attendant que la bourse réapparaisse.
Oui, mais est-ce que ça démarque pas justement ce manque de confiance dans la jeunesse de la part de nos aînés et peut-être même de notre génération, monsieur Tine?
Non, alors là, pour le coup,
pour nous, personnellement.
Je veux faire un trait jusqu'aux autres générations. Aujourd'hui, on doute de tout le monde.
Ouais.
Vous donnez une aide sociale à quelqu'un, vous allez vous poser la question de savoir si il la mérite ou pas, s'il n'est pas en train de faire autre chose. C'est la société de la suspicion. Il est peut-être temps qu'on arrête ça.
Une réaction, allez-y, madame Zogo.
Non, mais c'est totalement logique de demander, enfin, d'avoir un suivi derrière, parce que tout droit s'accompagne de devoirs. Donc forcément, ce qui veut dire que quand on vous donne une aide, il faudrait justifier derrière pourquoi vous recevez cette aide-là. Parce que oui, actuellement, la plupart des étudiants, ceux qui n'ont pas la possibilité de recevoir des aides de l'État, du CROUS ou de leurs parents, sont obligés de travailler. En ce sens-là, je suis d'accord avec le revenu universel. En ce sens-là, je suis d'accord avec ce revenu-là, puisqu'il permettrait aux étudiants de se focaliser vraiment sur leurs projets, qui est leurs études. Pardon. Voilà. De se focaliser sur ça et de ne pas avoir à quitter l'école à un moment donné pour aller travailler, parce qu'il faut bien gagner sa vie à un moment donné, parce qu'on n'a pas les moyens nécessaires. Donc, oui, avoir cette aide-là, le CROUS le fait déjà. Je sais qu'il y a des études. Moi, je suis une étudiante en reprise d'études. Moi, je le fais quand Pôle emploi me verse de l'argent. Je dois signer des documents, je dois signer des assiduités, comme quoi je vais en cours. Donc, présenter ça, la raison pour laquelle je ne vais pas chercher du travail, c'est parce que je suis en cours. Donc, évidemment, il faudrait ça aussi, être présent aux études, aux épreuves et tout ça.
Alors, je pense que votre position fera hurler certaines auditrices et certains auditeurs, mais c'est votre droit et c'est pour ça qu'on fait un débat. On va passer... Désolé. Donc, bon, on a essayé d'amener une proposition, et comme vous le savez, ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent régulièrement, on fait toujours la dernière partie sur les propositions. Alors, qu'est-ce que vous aurez, et pas que sur l'université, hein? Qu'est-ce qu'on fait pour la jeunesse aujourd'hui? Culture, sport, économique, insertion, accès à l'université. Enfin, qu'est-ce qu'on fait pour la jeunesse? Concrètement, on a 10 minutes. Allez-y.
Et qu'est-ce qu'on fait pour la jeunesse? Beaucoup d'idées, beaucoup d'annonces, ça c'est sûr. Hein, ça, il y en a pas mal, quoi. On peut pas dire qu'il y a rien qui se fasse. Faut être honnête. Les missions locales font un travail formidable en ce sens. Les régies de quartier font un bon travail dans ce sens. Néanmoins, j'ai toujours l'impression que tout est découpé et jamais relié. Et c'est peut-être là le problème. Vous disiez tout à l'heure qu'il faudrait peut-être venir expliquer en amont, en parlant des étudiants, quels sont leurs droits. Mais il faut le faire à toute la jeunesse, partout. Du fin fond d'un quartier, au centre-ville, à l'université, dans le lycée pro, et à leur dire, voilà, voici les aides dont vous avez droit, voici ce que vous pouvez faire. Quant à la culture, c'est vrai qu'on, non seulement on vient de vivre deux années assez fragiles en termes de culture, pour pas dire mortifères pour beaucoup de
D'artistes et dont on les salue absolument. Ce soir.
Eh ben, il va falloir retourner, remettre dans l'école, dans l'université, dans les quartiers, remettre la culture dedans. Je salue un ami, Pascal Laillet de la Bertoche, qui fait ce travail tous les jours. Les copains du théâtre des Chaouets à Lonne, pareil, font ça tous les jours. Il va falloir vraiment, c'est... quelqu'un disait, le 21e siècle sera spirituel ou pas.
Ou ne sera pas André Malraux. On salue s'il nous écoute de là-haut.
Oui. J'espère qu'il écoute pas trop ce qui se passe sur Terre en ce moment. Mais oui, il va falloir peut-être qu'on se dise que nos futures générations de leaders, ceux qui vont s'occuper de nous, qu'on sera très vieux, aient accès de nouveau à une culture pleine. Voilà, ça c'est peut-être...
Madame Zogo.
Alors, je sais que la région Pays de la Loire a mis en place une aide de 200 euros pour les étudiants qui travaillent.
Donc, qui travaillent, mais pas ceux qui travaillent.
Non.
Vous êtes sérieuse? On n'est pas là pour discuter de ce que alors, la politique de Madame Morancet.
En fait, je voulais juste...
C'est sympa de le préciser.
Oui, la FGM n'était pas vraiment d'accord avec cette aide qu'on trouvait inégalitaire par rapport à ceux qui n'ont pas les moyens de travailler. Mais bon, ça a été fait. On ne va pas non plus cracher dessus, désolé du terme. Donc, ça fait quand même 200 euros en plus dans une année pour un étudiant, 16 euros par mois. Ce n'est pas négligeable. Voilà.
Surtout qu'on en enlève 5 sur les APL, c'est vraiment pas mal.
Et voilà, j'avoue que mes APL en ce moment, ils sont très bas. Donc, qu'est-ce que je pourrais proposer? Enfin, quelles sont les propositions?
Ou même l'AFGEM, qu'est-ce que propose l'AFGEM, notamment pour les jeunes et les étudiants?
En fait, je sais que la raison pour laquelle on se bat actuellement pour les aides CROUS. En fait, parce que demander à ce qu'on arrête d'attribuer la bourse sur critères sociaux. Parce que c'est pas du tout représentatif de la réalité étudiante. Je crois que j'ai dit à un moment donné quand je disais que les étudiants qui ont la bourse les étudiants qui n'ont pas la bourse ne sont pas forcément, ne l'ont pas forcément parce que les parents les aident. Donc, je connais des étudiants qui se retrouvent obligés d'ailleurs de travailler parce qu'ils n'ont pas droit à la bourse parce qu'on leur a dit vos parents gagnent beaucoup.
Oui, parce qu'ils se rattachent à leurs parents. Parce que si vous vous déclarez seul, vous rentrez sur les échelons.
Oui, il y avait aussi une autre proposition. Ça c'est moi personnellement. On pensait que arrêter de taxer le revenu des étudiants qui travaillent, par exemple. Parce qu'un étudiant qui travaille, les revenus partent dans le foyer fiscal et qui est rattaché au foyer fiscal de ses parents.
Des parents, tout à fait. Oui.
Partent dans ils sont déclarés dans le foyer fiscal des parents, ce qui veut dire que les parents vont potentiellement être considérés comme gagnants en plus, être au-dessus du seuil minimal pour avoir des aides. Et ces étudiants-là vont se retrouver en situation de précarité, impossible d'avoir un logement CROUS parce qu'ils ne sont pas boursiers, d'avoir des aides nécessaires pour survivre. Parce que là, c'est un peu de la survie, on ne va pas mentir.
Je rejoins totalement là-dessus. Sans parler de l'étudiant, je vais prendre un cas précis. Si les parents sont au RSA et que le jeune doit rentrer dans ce qu'on appelle la garantie jeune. Donc c'est à peu près 400 euros qu'on donnerait à un jeune pour lui permettre de quitter décrocheur.
Ah, c'est le fameux contrat jeune avenir qui a été mis en place, c'est ça?
C'est le PACEA, en fait, dans la mission locale. Vous avez ce qu'on a un pacte qu'on signe avec un jeune pour l'accompagner.
Oui, mais c'est le gouvernement Macron qui a mis ça en place il y a quelques temps.
C'est très 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 ancien, ça. Très très ancien. Ça avait déjà commencé sous le quinquennat précédent, mais c'est presque le même. Vous avez raison. Des fois, on peut s'y perdre. Mais donc, si jamais le parent qui est au RSA a son gamin qui signe un PACEA et obtient la garantie jeune, ça impacte les revenus des parents qui sont au RSA. Oui. Combien de fois sont venus me voir des parents quand j'essaie, moi, anciennement éducateur, d'accompagner les jeunes vers la mission locale pour qu'ils soient encadrés et qu'on les empêche de décrocher. Les parents venaient me voir et me disaient « Vous êtes fous. Si vous faites ça, c'est nos revenus qui baissent. »
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc c'est vrai, vous avez raison, il faut absolument découpler, parfois, quand on veut absolument accompagner une génération, la faire monter, s'élever, la découpler du foyer fiscal des parents, sinon on ne va pas y arriver.
Oui, c'est ça.
Et au-delà de l'aspect monétaire, est-ce qu'il y a notamment, vous avez parlé de l'éducation, qu'est-ce que vous avez peut-être des idées sur les réformes à l'université amenées, enfin, ou sur l'école, l'éducation nationale? Moi, je peux pas en proposer, j'anime, mais...
Il y a une proposition que je défends depuis très, 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 très longtemps. l'université, c'est toujours un pôle qui est soit périurbain, qui est toujours un peu loin des, malheureusement, des quartiers. Oui. Donc, je vais beaucoup insister dessus parce que c'est vraiment grand sacrifié aujourd'hui de l'accompagnement socio-pro.
La jeunesse des quartiers populaires.
Absolument.
Ouais, d'accord.
Si on pouvait se décider à mettre des lieux de formation, des technopôles dans les quartiers populaires, de permettre à l'habitant des Glonnières, des Sablons, d'avoir accès à la formation sur son territoire, on simplifierait pas mal de choses, et même en campagne. Pourquoi est-ce qu'on doit aller si loin pour travailler l'agronomie si vous habitez à la campagne? Il faut que vous veniez jusqu'au Mans pour certaines unités d'agronomie supérieure. C'est anormal. Anormal. Il faut aller au plus proche des besoins et justement des sources vives que sont nos jeunes.
En s'appuyant sur les besoins locaux. Et
absolument.
Madame Zogo, peut-être une réaction non, sur la proposition de M. Thien ou une autre proposition? Allez-y, faites-vous plaisir, on a encore 5 minutes.
Non mais oui, je suis tout à fait
d'accord.
Lâchez-vous,
soyez créatifs.
Se rapprocher des jeunes du quartier qui ne se sentent pas forcément, investis, enfin je ne sais pas vraiment le mot que je vais utiliser, mais des jeunes qui se sentent parfois mis en retrait par la société parce que ils n'ont pas forcément accès à ça, donc se rapprocher d'eux. Plus d'accès à l'éducation. Je sais que à Laval, notamment, ils vont ouvrir un pôle master et doctorat
à l'antenne de Laval.
À l'antenne de droit de Laval, ils vont ouvrir un pôle master et doctorat justement pour permettre à la jeunesse mayennaise, lavalloise, de se développer.
Très bien.
Ouais, de se développer sur ce secteur-là, parce que c'est vrai que devoir faire 3 ans de licence à Laval et ensuite devoir s'envoler dans une autre ville qu'on ne connaît pas, être obligé de partir pour continuer ses études, c'est pas toujours évident. Et je sais qu'il y en a qui peuvent décrocher après la licence et se dire que ben, finalement je vais rester ici parce qu'il n'y a rien. Ben, je peux pas aller ailleurs et il n'y a rien qui m'est proposé là où je suis pour que je puisse me développer et que je puisse développer aussi mon quartier, ma ville, quelque chose comme ça.
Ouais, pour confirmer mon propos, Madame Zogo, moi je vois bien, franchement, c'est un ressenti et ce que je vois empiriquement, 70% de mes élèves ne peuvent pas quitter le Mans pour les études qu'ils aimeraient faire parce que problème de moyens. Mais au-delà de l'aspect monétaire, enfin, j'aimerais bien qu'on évoque aussi la question de la jeunesse et on a parlé de l'esprit de fête tout à l'heure. Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour, alors il y a eu Pass Culture qui a été mis en place, mais est-ce que c'est suffisant? Enfin, notamment sur la culture, je sais que c'est un sujet qui vous touche particulièrement à cœur. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Voilà, imaginons, vous êtes président demain. Qu'est-ce que vous faites?
Oh là. Bah déjà, je
le fais. Et Madame Zogo, vous allez avoir la question aussi. Hein.
Ah oui, je le fais, mon revenu.
Vous faites le revenu universel.
De suite.
Faites des technopôles.
Oui. Et puis, la culture, elle n'est pas basée dans une ville uniquement. Si on veut avoir accès à la culture, il faut être capable de bouger là où elle a lieu aussi. Quand on habite Nantes, il est bien d'aller voir ce qui se passe à Rennes, de voir ce qui se voit vers tout, ce qui se passe à Paris. Il est anormal qu'on ait certains spectacles qu'on ne voit jamais chez nous, pauvres provinciaux. Eh bien, permettre aux jeunes d'aller à Paris, justement, d'aller voir ce qui se passe, à Lyon, d'aller voir ce qui se passe à Marseille, sauf quand l'OM joue, mais ça, c'est une autre histoire.
Pas de foot ici.
Non, bah si, ça aussi, le sport.
Ah oui, l'accès au sport.
Pour accéder aux grands matchs. Oui, c'est important de permettre la mobilité sur tout le territoire. C'est le cas, il y a des billets bien précis qui permettent aux jeunes de bouger.
Oui, parce que je sais qu'à l'université, il y a accès à des billets de basket, des billets de matchs de foot.
Mais sur tout le territoire français.
C'est pas comme ça qu'on va non plus révolutionner le système. Ou sinon, est-ce qu'il y a des propositions de candidats que vous avez pu voir sans en faire un soutien propre, est-ce qu'il y a des propositions, vous suivez, vous êtes citoyenne, vous avez l'air assez engagée, Madame Zogo, est-ce qu'il y a des propositions que vous avez retenues peut-être de certains candidats sur la jeunesse ou pas du tout, parce que sur la politique, oui, tiens, finalement, c'est peut-être ça aussi le nœud du problème. On est en train de parler des jeunes et des propositions qu'on peut faire, mais est-ce que vous avez envie de vous engager pour faire des propositions dans le milieu politique? Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que vos militants associatifs, est-ce qu'ils ont envie d'aller plus loin dans l'engagement et notamment par le politique?
Alors,
nous, pourquoi?
Alors, nous, la FGM, on s'occupe pas des problèmes de politique.
Bien sûr, j'entends.
Et honnêtement, je n'ai pas suivi les candidats en ce moment parce que je vous avoue que personnellement, je n'ai pas le droit de voter, déjà, pour commencer.
Et alors effectivement, ça peut poser un souci.
Mais et ensuite, je ne vois pas vraiment pour lequel je pourrais voter, honnêtement.
Monsieur Thien, il y a des propositions que vous avez pu observer dans la campagne. Alors même si on sait très bien que la jeunesse est une des grandes oubliées du quinquennat aujourd'hui. Enfin, pas du quinquennat, de la campagne, pardon.
On a des jeunes qui s'intéressent pas à la politique parce que.
Pourquoi, comment vous l'expliquez?
Parce que dites-moi quels sont les programmes en ce moment.
Ouais, c'est ça.
Dites-moi où est-ce qu'on a pu assister à des débats sereins de société en ce moment. Dites-moi, où est-ce qu'on parle justement de la culture, de la jeunesse sur les grandes émissions? J'ai entendu qu'une grande chaîne de télévision, TF1 notamment, allait se passer de faire une émission électorale le soir du premier tour.
Ah bon?
Ça veut dire qu'on... Oui. Alors on est passé je ne sais quelle série. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu un débat entre deux candidats de droite, c'est pas, je vais pas dire mon obédience, mais c'est pas ma cam, qu'on a déprogrammé de la chaîne TF1 pour envoyer sur la chaîne périphérique LCI, pour laisser passer un épisode de Grey's Anatomy, parce que c'est très important de savoir si je ne sais qui allait avec la Covid.
Vous vouliez devenir chirurgien, jamais.
En plus, apparemment, elle mourrait dans l'épisode, c'est ce que j'ai lu le lendemain. On est aujourd'hui dans une situation où l'éducation politique, l'éducation civique est totalement absente des débats aujourd'hui. Et là, je m'inquiète vraiment parce que on a non seulement sacrifié une jeunesse, et aujourd'hui, on ne lui permet pas d'avoir accès au contenu politique. Tout ce dont on entend aujourd'hui, c'est immigration et guerre en Ukraine.
Retraite et guerre en Ukraine.
Et retraite. Et là, déjà, vous annoncez à des gamins, t'es même pas rentré sur le marché du taf, que déjà, tu vas y mourir. C'est inquiétant.
J'ai innové dans la formule de l'émission. Vous avez 30 secondes pour conclure. Madame Zogo.
Alors, qu'est-ce que je peux dire?
ce que vous voulez. Faites-vous plaisir.
Alors, d'abord, remercier de m'avoir invité aussi aujourd'hui. Et sinon, parler de tous les projets, pas des projets de la...
Vous n'avez pas une soirée annoncée ou des choses, des événements peut-être?
Alors, on a un événement, on a le MSB du Mans qui a proposé des places aux étudiants pour qu'ils aillent voir des matchs de foot, des matchs de basket, des places à 2 €. Et on a eu des étudiants qui ont accepté et qui iront voir les matchs de basket. Donc, on parlait
d'accès au sport
et tout ça. Donc, on a proposé ça. Et sinon, cette année, on a aussi proposé plein de choses à la patinoire. D'accord. Donc, on a proposé des soirées à la patinoire. On a fait un concours d'éloquence qui a eu du succès d'ailleurs à Laval. Voilà. On espère que l'année prochaine, on arrivera à avoir toutes les filières, parce que là, on a eu que des étudiants en droit, ce qui est bien, mais on aimerait bien avoir aussi des géographes, des historiens, des scientifiques, des STAPS pour venir débattre sur des sujets qui les intéressent et faire des concours de plaidoirie. Voilà.
Merci Madame Zogo. Donc on invite toutes les étudiantes et tous les étudiants à venir discuter avec l'AFGEM, et notamment on passe aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de la jeunesse, et j'aimerais féliciter Adèle qui anime une émission avec tous les jeunes de l'université. Alors j'ai plus le nom de l'émission, elle m'excusera, mais bravo pour ce qu'ils font. Monsieur Tine, une conclusion, 30 secondes.
Ouais,
une minute.
Je vais être positif, on a été un peu sombre sur plusieurs traits des sujets. Il y a quand même une belle jeunesse dans ce pays.
Oui, solidaire.
Très solidaire. On a une jeunesse, je vous parlais d'anomie tout à l'heure, mais on a n'empêche une jeunesse qui, elle, est en train de nous dire, voilà clairement le monde dans lequel on aimerait vivre, qui se mobilise sur les questions du climat, mobilise...
Ça sera le sujet de notre émission la semaine prochaine. Merci, monsieur Tine.
Je vous fais un petit teasing sur ce qui va se passer la semaine prochaine. Une jeunesse qui a été très, très, très présente en matière de solidarité quand les plus anciens étaient en train de souffrir. Donc voilà, moi, je crois qu'il y a quand même un bel avenir pour peu que... on leur permette vraiment
de le vivre.
Voilà.
Merci monsieur Tine, merci madame Zogo.
Merci.
Je tiens à remercier LB pour la technique, comme d'habitude, c'était parfait. Je remercie Samir Tine, je remercie Elodie Zogo. Et pour se quitter, et pour faire la transition avec l'émission de La Carotte de Alex, je me suis permis de passer un petit morceau de Kendrick Lamar et The Weeknd. Les anglophones comprendront pourquoi j'ai mis ce morceau. Bonne soirée à tous, à la semaine prochaine. Ciao la famille.
I fight the world, I fight you, I fight myself. I fight God, just tell me how many burdens left. I fight pain and hurricanes, today I wept. I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps. Life we live in hell, puddles of blood in the street. Shooters on top of the building, government aid ain't relief. Earthquake, the body drop, the ground breaks. The poor run with smoke lungs and scarred face. Who need a hero?
Hero.
You need a hero, look in the mirror, there go your hero. Who on the front lines at ground zero?
Hero.
My heart don't skip a beat even when hard times bumps the needle. Mass destruction and mass corruption, the souls of suffering men. Clutching on deaf ears again, rapture's coming. It's all prophecy and if I gotta be sacrificed for the greater good, then that's what it gotta
you
be.
You won't pray for me. Take my pain for me.